Notre Dieu est un Dieu qui donne, un Dieu qui donne la vie, un Dieu Père qui donne la liberté. Et l'évangile de ce soir peut nous aider à comprendre ce que cela veut dire être libre. Jésus parle de cette lumière qu'il ne faut pas mettre sous le boisseau. Bien sûr, cette lumière, c'est Jésus. C'est lui-même que Dieu nous donne comme lumière dans notre vie. Et plus nous désirons venir à cette lumière, nous exposer à cette lumière, y compris avec ce qui est ténébreux en nous, et d'ailleurs sans avoir peur, exposer tout à la lumière, tout le réel de notre vie, mais aussi nous pouvons exposer à cette lumière le réel de la vie de nos frères et sœurs, plus, eh bien, cette lumière va nous transformer. Et plus nous allons, parfois sans nous en rendre compte, nous laisser traverser par elle pour qu'elle éclaire, comme Dieu le veut, nos frères et sœurs, les personnes que nous rencontrons. Et Jésus me dit, plus vous désirez vous exposer à cette lumière, eh bien plus vous allez recevoir d'être plus libre. Donc la liberté chrétienne n'a rien à voir avec le fait de faire ce qu'on veut, de choisir entre des marques de yaourt au supermarché. Ça s'appelle le libre arbitre. Et on a tout à fait raison de l'user, ce libre arbitre. Nous en avons bien besoin. Et bien souvent, nous confondons liberté avec libre arbitre. La liberté est une réalité relationnelle. Elle se vit dans une relation. Relation donc avec Jésus, qui nous est donné par le Père. Pourquoi ? Pour nous donner, eh bien, de communier à la liberté même de Jésus. Quelle est la liberté avant tout de Jésus ? Eh bien, c'est de se recevoir de son Père, de vivre dans un climat d'alliance avec lui, de ne pas pouvoir vivre sans lui. Donc, vous voyez, la liberté chrétienne n'est pas une question de, dans un premier temps, de faire ceci ou cela. Jésus nous l'a bien dit dans l'Évangile, dans un premier temps, il s'agit d'accueillir, d'écouter, de recevoir, de nous exposer avant, parce que nous sommes dans une société, vous savez, du faire. On fait beaucoup de choses, pas forcément d'ailleurs des mauvaises choses, mais on ne les fait pas forcément dans un climat de liberté. Vous savez que les commandements de Dieu, dans l'Ancien Testament, commencent par la porte la plus importante, Shema Israël. Écoute, car les commandements qui viennent après ne servent à rien si nous ne désirons pas écouter. Donc, la liberté de Jésus, c'est son écoute du Père. Et nous le savons, en lisant les évangiles, en contemplant Jésus, combien il remet tout à son Père. Il prend beaucoup de temps pour l'écouter. Le matin, vous savez, il part assez tôt, pendant que ses disciples dorment encore. Et le soir, il recommence. Il se met à distance pour prier, pour être à l'écoute. C'est un écoutant, Jésus. Donc, la liberté à avoir, donc tout d'abord, avec notre désir d'écouter. D'écouter, c'est-à-dire d'accueillir la parole de Jésus, sa présence. Et plus notre désir va s'approfondir, plus, il nous l'a dit, eh bien, nous allons le désirer encore plus. Donc nous pouvons nous interroger, et moi le premier, qu'en est-il de mon désir d'accueillir avant tout au cœur de mon existence Jésus, sa parole et son Eucharistie. Pour notre Mère Sainte Thérèse, parce que là j'ai parlé un peu de l'Évangile, mais Thérèse d'Avila, eh bien, elle relie liberté à l'Eucharistie. Hein, c'est étonnant. Moi, dans un premier temps, je n'aurais pas fait ce lien. On me dit liberté chrétienne, la première chose à laquelle je pense, c'est pas l'Eucharistie. Eh bien, si, elle, quand elle commente le Notre Père, et notamment, justement, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », eh bien, il est question de liberté. Pourquoi ? Parce que dans l'Eucharistie, c'est le signe le plus haut de l'amour de Dieu pour nous qui se donne. Et cet amour, il est là pour éveiller notre désir, eh bien, d'accueillir cet amour. Donc l'Eucharistie, avant tout, excusez-moi du terme, hein, c'est un réveil. C'est là pour éveiller nos cœurs. Parce que parfois, ils sont fermés. À cet amour qui se donne, et que c'est seul cet amour qui peut nous faire vivre, nous guérir, et surtout, nous aussi, nourrir notre mission chrétienne. Donc, Thérèse d'Avila, quand il est question de liberté, eh bien, elle parle justement de ce pain de vie. Et notamment, elle cite ce passage de Jean 4, vous savez, après la rencontre de la Samaritaine, il y a les disciples qui arrivent avec les sandwichs et qui se demandent pourquoi il est en train de parler avec une femme. En plus, je vous rappelle, cette femme, elle est schismatique et pécheresse. Tout va bien. Et il est midi, hein, il fait très chaud, auprès du puits, et alors les disciples, ils comprennent rien, là. Et Jésus de leur dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez, la liberté de Jésus, c'est quoi ? C'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Eh bien, nous, c'est pareil. Être libre, c'est d'être rendu capable de faire la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais Jésus nous dit aussi que cela a besoin d'être nourri. Eh bien, ce que Jésus vit, eh bien, il nous le communique dans l'Eucharistie. Est-ce que nous vivons l'Eucharistie comme ça ? Est-ce que nous mettons un lien entre l'Eucharistie, le dimanche, et peut-être pourquoi pas d'autres jours de la semaine ? Et d'ailleurs, peut-être que nous allons être motivés pour y aller davantage que le dimanche, si nous désirons la vivre comme ça. Peut-être d'ailleurs que nous allons demander au Seigneur d'attirer davantage les baptisés à la messe. Parce que vous savez pourquoi il y a un peu moins de monde à la messe ? Parce que ceux qui y sont ne prient pas pour qu'il y en ait davantage. Posez-vous la question, est-ce que quand vous venez à la messe, vous priez le Seigneur, pour que d'autres personnes soient attirées par lui à l'Eucharistie. Je ne demande à personne de lever la main. Mais, excusez-moi, c'est fondamental. Souvent, nous vivons l'Eucharistie, bien sûr, personnellement, c'est logique, avec les personnes qui sont là, les chers prêtres, qui sont encore là. Mais nous oublions ceux qui ne sont pas là. Surtout pour qu'ils viennent. Eh bien, nous pouvons choisir à partir de ce soir de ne pas oublier, eh bien, d'accueillir cette occasion de l'Eucharistie pour demander à Jésus, mais attire-moi davantage d'ailleurs, moi, pour renouveler ma manière de vivre l'Eucharistie, et attire d'autres personnes. Car vous savez, le petit problème que nous rencontrons dans l'Eucharistie, c'est que ça peut devenir une routine de notre côté. Enfin, pas pour vous. Mais donc, Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Eh bien, lui, dans l'Eucharistie, nous nourrit de ce que lui-même vit, de son désir à lui. Si nous voulons que notre désir grandisse, soit vivant, désir de vivre, désir d'être libre et désir d'aider les autres à être libres, eh bien, il faut reconnaître dans l'Eucharistie la source de cette liberté et aussi la demander pour les autres. Donc, la présence eucharistique manifeste cette présence de Jésus qui vient justement nous libérer. Et pour Thérèse, c'est aussi une présence de Jésus qui continue à souffrir de ne pas être accueilli. Quand nous allons à l'Eucharistie, bien sûr, nous exprimons un désir qui nous transforme, qui nous libère. Nous lui demandons de communier à son propre désir, de faire la volonté de son Père. Mais nous accueillons aussi, je vous rappelle que chaque Eucharistie, c'est l'actualisation, ce soir, de la passion et de la mort de Jésus. Pas de sa résurrection, n'anticipons pas, de sa passion et de sa mort. C'est quoi sa passion et sa mort ? Eh bien, c'est Jésus qui, par amour, vient rejoindre au plus loin possible nos situations de pécheurs, mais aussi de personnes blessées et souffrantes. C'est ça ce que fait Jésus. Il fait la volonté de son Père en allant nous rejoindre très concrètement dans nos situations de pécheurs et de souffrants. C'est ça le sens de sa passion. Eh bien, à chaque Eucharistie, cela est concrètement rendu présent pour nous, personnellement. Et le risque, c'est de l'oublier. C'est de l'oublier. À chaque Eucharistie, voilà ce qui nous est donné. Jésus vient nous rejoindre. Il souffre pour cela. Et il souffre pourquoi ? Pour mettre l'amour, son amour, dans les cœurs qui, dans un premier temps, sont fermés à cet amour. Dans la passion de Jésus s'opère l'ouverture de nos cœurs, qui sont fermés à cause de nos péchés. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe dans l'Eucharistie. Nous recevons Jésus qui vient mettre l'amour là où il n'y en a pas, pour, eh bien, récolter de l'amour. C'est notre Père Jean de la Croix qui dit « Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour, vous récolterez de l'amour ». Eh bien, c'est Jésus qui fait ça en nos vies, en chaque Eucharistie. Donc, c'est pour ça que, reconnaissant nos blessures, nos péchés, reconnaissant aussi ceux des autres, nous avons soif de venir à l'Eucharistie. Car c'est là que nous sommes transformés de l'intérieur. Que Jésus, à partir évidemment du réel qui est le nôtre, il n'y a pas à le nier, n'ayons pas peur à l'exposer, vient transformer nos cœurs pour nous donner un désir plus profond de vivre de sa vie. Donc l'Eucharistie, vous voyez, est un lieu de transformation et cela est donné à chaque Eucharistie. Toute la passion, toute la mort de Jésus, pas un bout, totalement est réactualisée. C'est comme si nous étions au calvaire maintenant, à chaque Eucharistie. Et donc c'est toute l'intensité de son amour et de sa miséricorde qui nous sont offertes à chaque Eucharistie. Alors quel est notre problème ? Eh bien, notre problème, c'est que nous ne désirons pas assez recevoir cela. D'ailleurs, nous pourrons justement tout à l'heure, en communion, demander à Jésus, « Écoute, Jésus, dilate mon désir de t'accueillir. » Et vous pourrez peut-être faire un petit examen de conscience. Après avoir communié, que faites-vous et à quoi pensez-vous ? Est-ce que vous exprimez votre désir à Jésus qu'il vienne habiter toute votre vie, et notamment ce qui est blessé, ce qui est replié sur vous-même pour vous libérer par son amour. C'est ça, la passion et la mort de Jésus. Je vous rappelle qu'elle se termine par le fait qu'il dit à un larron, « Aujourd'hui, avec moi, au paradis. » Ça donne le sens de la passion de Jésus, ça. Eh bien, il le fait avec nous. Nous sommes comme ce larron, qui reconnaît d'ailleurs ses fautes. Pas besoin de savoir ce qu'il a fait, d'ailleurs on ne sait pas trop, d'ailleurs. Eh bien, nous reconnaissons-nous à la place de ce larron, et Jésus nous dit, en se donnant à nous, « Aujourd'hui, avec moi. » C'est-à-dire, vous voyez, ce qu'il nous donne, il nous donne tout. Le paradis, d'ailleurs le paradis, je vous rappelle, c'est être avec lui. Donc il peut commencer dès notre vie terrestre. Le paradis, ce n'est pas simplement une réalité à venir. Donc, voilà la liberté pour notre mère Sainte Thérèse. Nous nourrir de Jésus dans son Eucharistie. Et pour cela, demander à Jésus, très souvent, eh bien, de libérer en nous un désir plus profond, de l'accueillir, mais pour le coup, tel que nous sommes. Il n'y a pas de condition. Nous pouvons, en effet, être blessés. Nous pouvons faire l'expérience de beaucoup de replis sur nous-mêmes. Mais l'important, c'est de désirer qu'il vienne justement nous libérer et nous communiquer sa liberté qui consiste à quoi ? À ne surtout pas vouloir vivre par soi-même, pour soi-même, avec soi-même, seul. Être libre, je vous l'ai dit au début, c'est une réalité relationnelle. Donc, plus vous désirez recevoir comme Jésus, eh bien, de Dieu, mieux c'est. Donc, ce que Dieu attend avant tout, c'est notre confiance, notre désir de recevoir davantage de lui. Alors, pour terminer, deux choses. Nous prenons justement la messe de l'Annonciation. Eh bien, s'il y a vraiment quelqu'un qui peut nous aider sur ce chemin, c'est la Vierge Marie. Vous voyez, quand l'ange vient, eh bien, voilà, elle accueille évidemment ce que Dieu dit pour chacun d'entre nous, du positif. Nous sommes tous comme elle, comblés de grâce. Et vous voyez par quoi ça se termine, cette rencontre. Marie est mise en mouvement vers sa cousine Élisabeth. Donc, elle est dans le mouvement de l'amour. Mais pour cela, il a fallu qu'elle soit mise en route. Et en cela, nos Eucharisties sont toujours des mises en route. Le moteur se met en route, à la différence du chauffage. Mais prier, il arrive. Il n'y a plus qu'une pièce qui manque. Donc vous voyez, l'Eucharistie, c'est vraiment aussi une mise en route. Et puis, dernier point, l'Eucharistie, chez Thérèse d'Avila, et peut-être que cela ne nous est malheureusement pas très vivant dans notre existence quotidienne, elle met en lien l'Eucharistie avec nos frères et sœurs défunts. Ah bah, vous me dites, qu'est-ce qu'il va nous raconter là ? Oui, comme à chaque Eucharistie, je vous rappelle, est réactualisée la passion et la mort de Jésus. Évidemment, c'est pour nous. C'est pour les personnes que nous connaissons, évidemment. Mais c'est aussi pour nos frères et sœurs défunts. Or, souvent, nous les oublions. Et nous oublions que nous avons une mission vis-à-vis d'eux. Nous avons la mission de prier pour eux. Vous savez, d'ailleurs, on prie pour eux à chaque Eucharistie. Mais ne laissons pas simplement le prêtre prier pour les défunts. Car en priant pour eux à chaque Eucharistie, eh bien, nous participons à ce que leur cœur s'ouvre encore plus là où ils en sont, à cet amour, à cette miséricorde qui va leur donner de participer pleinement à la résurrection. Donc, Thérèse d'Avila, à cette époque, on priait beaucoup plus de messes pour les défunts. Alors, je ne vais pas faire une annonce pour inviter à offrir des messes pour les défunts, mais si. Mais ce n'est pas qu'une question de combien il faut donner en euros. C'est plus, nous ne savons pas, malheureusement, le poids, les fruits que porte le fait de faire célébrer l'Eucharistie pour les défunts et de prier personnellement pour eux. Malheureusement, on en entend un peu moins parler dans l'Église. C'est pour ça que je m'en profite, puisque Thérèse d'Avila a la parole, et qu'à l'époque, elle mettait un lien entre l'Eucharistie et prier pour nos frères et sœurs défunts. Et vous inquiétez pas, si vous priez pour eux, comme de l'autre côté tout circule, ils vous en renverront l'ascenseur. C'est-à-dire que plus nous prions pour eux, plus nous établissons une communion, et vous inquiétez pas, ils prieront pour nous. Je vous rappelle que dans le royaume de Dieu, tout circule. Ce qui appartient aux uns appartient aux autres. Donc je termine par cette exhortation. J'ai commencé par une exhortation par rapport à l'Eucharistie. Priez pour que d'autres personnes nous rejoignent à l'Eucharistie. Et prions pour nos frères et sœurs défunts. Nous avons besoin de les prendre en charge. Alors, vous inquiétez pas, du côté du ciel, il y a aussi la prise en charge. Il n'y a pas de problème, tout est ouvert. Mais ils ont besoin aussi de notre aide sur la terre pour que tout ce qui est lié en eux soit délié. Comme le dit le Seigneur, tout ce que vous délierez sera délié de l'autre côté. Eh bien, choisissons de donner une plus grande place à ces chers frères et sœurs défunts, qui sont, je vous rappelle, des vivants. Défunts, ça veut dire defunctus, ça veut dire hors fonction. Excusez-moi, mais ça ne veut pas dire mort, anéanti. Mais ils ont besoin de notre communion encore. Un peu différemment, évidemment, que quand ils étaient sur terre. Donc, à l'Eucharistie, nous avons aussi, voilà, un moment, un sacrement qui nous relie à ceux qui ne sont pas là, évidemment, dans l'Église, mais aussi à ceux qui nous ont quittés. Amen.